Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Alors ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez pas, voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus.
Voilà, tout simplement, nous avons fait l'expérience ce soir à travers la veillée et puis la célébration de l'Eucharistie maintenant, d'un cheminement de louange et de célébration de Jésus, petit enfant. Chaque période de l'année liturgique a ainsi sa tonalité. Au moment de Pâques, nous prenons le temps d'une longue veillée pour rappeler tous les hauts faits de Dieu au cours de l'histoire sainte et pour parvenir ainsi à la célébration de la résurrection de Jésus. Ce soir, différemment, nous avons pris le temps de chanter, de méditer et d'entendre maintenant à nouveau l'évangile de la nativité dans l'un de ses aspects. Il y en aura d'autres qui seront évoqués à travers les autres évangiles demain matin, demain soir, puisque pour le jour de Noël, il y a plusieurs messes, la messe de la veille au soir, la messe de la nuit, la messe de l'aurore, la messe du jour. Et ainsi, on puise dans les Écritures différents aspects de la nativité. Peut-être ce soir, je voudrais en retenir quelques-uns. D'abord celui de la louange. Les bergers sont conduits jusqu'à la mangeoire où se trouve Jésus, jusqu'à la crèche, par des chants de louange. C'est important de nous rappeler, de regarder cela dans l'Écriture. Ils ne sont pas venus comme ça en suivant des poteaux indicateurs qui leur indiqueraient la direction, ou encore avec un GPS qui disait « voilà, maintenant vous êtes arrivés », etc. Mais ils sont venus parce qu'ils ont entendu chanter les louanges de Dieu, parce qu'ils ont entendu célébrer l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu, et dire que la paix sur la terre, ça dépendait de la gloire rendue à Dieu dans le ciel, d'une certaine façon. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Mais on peut lire aussi la phrase à l'envers, c'est-à-dire la paix sur la terre viendra si nous savons nous unir à la louange du ciel et si nous savons introduire dans nos vies la dimension de louange de Dieu. Et puis c'est une piste, je pense, pour l'évangélisation, pour nous dire que nos contemporains trouveront le Seigneur dans la mesure aussi où nous saurons leur faire entendre les chants de la louange de Dieu, dans la mesure où nous saurons vraiment être ceux qui leur indiquent la gloire de Dieu par nos propres louanges, par nos propres chants, par notre propre joie. Vous voyez, lorsque nous célébrons le dimanche, aujourd'hui c'est pas dimanche, c'est jeudi soir je crois, demain c'est vendredi, la fête de Noël, mais on va tous se dire à la fin de la messe, bon dimanche. Le dimanche, c'est important de nous réunir les uns et les autres pour célébrer les louanges de Dieu. C'est peut-être triste, mais demain matin, la queue la plus longue ne sera pas devant l'église, elle sera devant la boulangerie. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ce phénomène. Le jour de Noël, il y a vraiment une queue très très longue, et quand on arrive on se dit chouette, il y a des gens à attendre pour rentrer à l'église. Pas du tout, ils tournent le dos à l'église, ils sont en train de se diriger vers la boulangerie, mais ça dégorge jusque là, jusqu'à la porte d'entrée de l'église. Mais le dimanche, c'est important que nous venions ici, enfin ici ou ailleurs, là où nous sommes, peu importe, mais participer à l'assemblée dominicale pour chanter les louanges de Dieu, pour vivre la louange divine, car la célébration de l'Eucharistie, à moins vraiment de vouloir à tout prix avoir un visage extrêmement grave, compassé, pieux, incliné dans la pieuserie, la célébration de l'Eucharistie le dimanche doit être une célébration festive, une célébration de joie, mais évidemment avec la participation de tous. Et plus nos assemblées dominicales seront maigrichonnes, plus les uns et les autres nous resterons, même pas pour regarder la messe à la télévision, je crois que c'est plus le cas maintenant, pour aller faire son footing, etc. Le dimanche matin, on est très très occupé, ou faire la grâce matinée, mais plus nous resterons ainsi dans nos occupations individuelles, moins nos assemblées dominicales seront fournies, et donc moins la louange de Dieu sera rayonnante, et moins les personnes qui nous entourent seront touchées par la miséricorde divine. Voilà, je voulais simplement peut-être souligner cet aspect de louange divine qui est rendu à ce petit enfant. Comme je le disais déjà précédemment dans d'autres homélies, faisons attention aujourd'hui, le visage de Dieu qui nous est présenté à travers la crise profonde que nous vivons, c'est un visage d'un Dieu violent, d'un Dieu tyran, d'un Dieu meurtrier. Et ce n'est pas le visage du Dieu de la Bible. Ce n'est pas la révélation chrétienne. Et nous avons à faire entendre un autre son de cloche qui est... Excusez pour les cloches, mais... Un autre son qui est celui de la miséricorde. Je trouve que l'année sainte de la miséricorde qui vient de s'ouvrir le 8 décembre... promulgué par le pape François et qui s'achèvera au mois de novembre 2016. Donc nous avons toute une année, cette année sainte sur la miséricorde de Dieu arrive à point nommé, de sorte que nous réalisions nous-mêmes plus profondément combien Dieu est amour, tendresse, miséricorde, pardon. D'abord cela, il est juge aussi. Mais il est miséricorde, tendresse, pardon, et c'est ce message que nous avons, dont nous devons nous-mêmes nous nourrir, et que nous avons à rayonner, et que nous avons à partager, et que nous devons ainsi propager autour de nous. Parce que le matraquage dans l'autre sens est puissant et fort. Vous avez dans le fond de l'église des petites images qui représentent cette icône qui se trouve à votre droite, et qui est l'icône que notre diocèse a choisie pour l'année de la miséricorde. Il y en a un certain nombre à votre disposition, vous pourrez en prendre en sortant, et puis voilà, vous en distribuer autour de vous avec un grand sourire, en disant aux gens, voilà, l'Église vit une année particulière, l'année de la miséricorde. Alors le mot va faire tiquer, la quoi vous avez dit? La miséricorde, ah bon, c'est quoi ça? Et au dos, il y a quelques versets de la Bible qui parle, qui dévoile un petit peu ce que c'est que la miséricorde divine. Mais c'est important que nous sachions évangéliser, non pas d'une évangélisation coup de poing prosélyte, parce que c'est pas comme ça que Jésus lui-même a fait, mais d'une évangélisation tout de même qui ose dire et rayonner et partager. Et si vous allez acheter quelques croissants demain matin, vous pouvez toujours donner la boulangerie, la petite image, en disant, vous savez, nous vivons une année particulière, et vous pouvez faire ça partout chez vous, et bien sûr dans vos familles, parce que évidemment, le premier lieu de l'évangélisation, c'est la famille, et quelquefois il y a fort à faire. Demain, c'est sûr, ce sera sympathique de prendre l'apéro ensemble, et de faire ou même ce soir, de faire un grand festin, mais tout de même, si nous pouvions aussi faire honneur à la dimension spirituelle de Noël, ce serait bien. Je me disais ces derniers jours, en voyant la petite cabane que les ouvriers municipaux ont construite sur la place, je me disais, c'est pas possible, ils sont en train d'installer une crèche. Alors j'ai été voir, non, pas du tout, c'est pas une crèche, c'est pour le Père Noël. Et donc cet après-midi, il y avait le Père Noël qui était là, faire des photos avec les enfants. Mais voilà, le jour où, au fond, les choses qui nous structurent, structurellement parlant, notre culture occidentale et française est structurée par la foi chrétienne et par le message de la révélation. Pourquoi faudrait-il que la crèche soit simplement réservée à l'intérieur de l'Église ou encore à nos maisons? Et pourquoi faudrait-il qu'au nom de la laïcité, qui devient alors une sorte de laïcisation et de laïcisme qui vraiment, comme un rouleau compresseur, essaye de gommer tous les signes, pourquoi faudrait-il qu'on ne mette pas ce signe devant les yeux de tous, car il fait partie de notre culture, de notre identité française, ou alors nous renions tout. Si vraiment, maintenant on en arrive à mettre Jésus dans sa poche parce qu'on a peur, il faut raser nos cathédrales, il faut enlever tout ce qui dépasse et qui pourrait évoquer de près ou de loin Jésus. Vous sentez bien qu'il y a là une impasse, non pas pour que nous réagissions par une sorte de balancier violent, mais pour que nous sachions simplement partager avec paix, joie et bonté, bienveillance, la foi, la joie qui nous anime et que nous célébrons ce soir en célébrant la nativité de Jésus.